La maison de la poésie de Rennes.
Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ou vous préférez que je prenne le micro ?
Alors, nous sommes ici à la maison de la poésie
donc,
à Rennes.
Nous avons le plaisir de recevoir ce soir.
Je ne sais pas danser, mais je danse. Je ne sais pas chanter, mais je chante.
Cette expérience est unique dans l'univers.
Voir à chaque poème, je lis le mot.
Semblable ou similaire.
Et puis on voit comment il se débrouille avec la page.
Que cette lecture nous laisse nus, dépouillés, et ainsi tout disposés à accueillir une autre, un autre en nous, que nous n'aurions pas osé imaginer.
C'est pas vivre, mais je vis.
Lecture. Ludovic de Groot.
Juste pour vous situer, ça s'appelle monologue au singulier, et dedans il y a quatre monologues autour de la figure d'une fille qui est morte dans un accident d'auto. Il y a le monologue de la fille, le monologue de la mère, le monologue du père et le monologue du frère. Et je vais vous lire le monologue de la mère. J'ai moi, la mère, porté ma fille dans mon ventre, et la naissance qui l'a séparée de moi ne l'a jamais éloignée de cette mémoire de mon corps où elle demeure. Sa disparition m'a arraché une partie du ventre de façon si intime et profonde que mon mari est incapable de le comprendre, alors je n'en parle pas. Il ignore ce qu'est un ventre qui reçoit. Non plus qu'un ventre qui délivre. Mon mari est démoli de l'extérieur, à travers sa part affective et morale, tandis que moi, je suis démoli deux fois. Mon ventre ne s'éteint pas. Nous autres mères ne pouvons délivrer que de la vie, et lorsque nos enfants meurent, c'est comme s'ils revenaient labourer nos intérieurs, retourner ce vide qui est devenu en nous, des organes sans signification. Nous ne portons plus que nous-mêmes dans la douleur de sentir notre corps nous nier. Nos maris qui ont le ventre plein des hommes n'ont aucune idée, aucune représentation, aucune sensation de ce que nous vivons. Leur ignorance est si loin qu'ils ignorent même qu'ils ignorent. Ils sont tombés dans une espèce d'incompatibilité. Et nous ne pouvons leur en vouloir, à cause de cette ignorance où ils sont, et de leur ventre sans mémoire. Ils décident de nous protéger, ils croient que c'est leur affaire d'homme, or ils n'ont aucune solution de repli. Sans cavité, ils sont obligés de tout dire. C'est même lorsqu'ils commencent à se taire qu'ils parlent le plus, si ce n'est par leur bouche muette, par celle qui s'éparpille sur le corps. Ils ne comprennent pas qu'en cherchant à nous protéger, ils s'exposent tellement que c'est nous qui devons les protéger, malgré eux. Ils ont cet orgueil de mari, ou d'homme, ou de père, cette résolution qui déguise un espoir dans lequel il serait question de ne pas tomber. Alors nous les regardons en souriant, par amour, et puis nous faisons notre office. La conscience qu'ils ont de leur solitude est une conscience de surface. Je n'ai pu voir ma fille et je l'ai acceptée, pour ne pas renforcer la faiblesse de mon mari. À cause de cette mort, j'ai accepté à cet instant-là ce que j'ai su que je regretterais toute ma vie. C'est ainsi que je suis faite. Et sans doute est-ce ainsi que serait devenue ma fille si elle avait vécu. Parce qu'elle aurait compris que son ventre était sans limite, que le ventre des femmes est le ventre du possible. Me voilà donc en deçà de moi-même, écoutant les certitudes de mon mari, et faisant par empathie, semblant d'y croire. Je n'ai pas à mordre la terre, puisque la terre est en moi, ni à mordre la disparition de ma fille. D'autres enfants attendaient qui avaient été expulsés de mon ventre, et j'avais à prendre soin d'eux, à terminer mon travail de mère. Mon mari me disait, il y a d'autres enfants, pour lui c'était des mots et une théorie, il en restait 5 dont il ne mesurait pas le poids, des enfants produits qui restaient produits tant qu'ils n'avaient pas été détruits. Alors qu'un seul avait détruit l'ensemble de cette famille qui tournait si bien rond, qu'il n'y avait plus à s'en inquiéter, en donnant l'impression qu'on pourrait vivre comme heureux ou libre. J'ai pris le poids des autres enfants, j'ai tenté de limiter les dégâts. Ça semblait plus facile pour les aînés parce qu'ils avaient la parole. Les plus jeunes se sont tus, mais d'une certaine façon on peut dire qu'aucun n'est jamais sorti de son incapacité de parler. Ils tournent autour de ce qu'ils peuvent, comme des noyés autour de leur bouée. Il n'y a pas d'exception, il n'y a que des oublis. Ma petite fille mourait, et dans cette absence de tout pressentiment, je vivais tranquille, autour de mon ventre muet. Cette monstruosité-là, aujourd'hui encore, je ne comprends pas de quelle manière je l'ai fabriquée. Donc, j'ai pris en charge les autres enfants dont mon mari n'était plus capable de porter le poids, sinon qu'en le rapprochant de ce poids mort d'un corps qu'il avait peut-être soulevé, comme pour tenter de le sortir de son histoire de mort, comme si le prendre dans l'habitude de ses bras allait ramener ce corps à la vie et à lui, dont on peut supposer qu'il avait embrassé les joues flétries et les cheveux brûlés, en prévoyant de me dire que notre fille était invisible, et que les bandelettes qui lui masquaient le visage lui masquaient le sien à lui, de la même manière que si j'avais été naïve. J'ai fait face parce qu'il m'était impossible de m'effondrer, sans quoi j'effondrais le monde avec moi, le monde des autres enfants, celui de mon mari et celui qui traînait au-dedans, dans quoi je me demandais jusqu'où le taire pour faire bonne figure, mais à cause de cette impossibilité, j'ai fait bonne figure, au risque de paraître distante, de glisser peu à peu dans l'impossibilité de parler de moi, de dire ma tristesse, de me confier. Les autres enfants, ceux qui avaient eu cette drôle de chance de continuer à vivre, eux aussi, ils avaient des tristesses et des cafards, mais tout me paraissait tellement diminué au regard de la mort de leur sœur qu'il devenait très difficile d'y prêter l'attention que j'aurais prêtée si je n'avais pas été dans cette situation-là de quelque chose qui s'était défait et que je devais chaque jour reconstituer pour donner l'impression que je continuais à vivre. Je ne peux me défaire de mourir, parce qu'en engendrant la vie, j'ai engendré la disparition, l'amour et le chagrin au lieu de la haine et de tout ce qui aurait dû me révolter. Dans ce geste, je suis tombé à genoux, à l'intérieur de moi-même. Il est difficile de ne pas revenir à cette histoire de ventre qui fait ma nature, et ma fille est morte, malgré mon cœur déchiré. La profondeur de mon ventre est tellement plus lointaine et inaccessible que le déchirement le plus douloureux s'y abrite. Ma solitude aussi vient de mon ventre, et de l'incapacité dans laquelle je me trouve de pouvoir le dire, mais que, parce que je suis une femme, je devine de façon commune, sans qu'il paraisse besoin de l'exprimer. Alors il me semble qu'un regard suffirait, comme suffisait le regard que je portais à Godelaine et qui me faisait aussitôt comprendre si tout allait bien ou pas. Un regard pour comprendre que d'autres mères pourraient partager la solitude de ce ventre vide et de ce regard perdu. Mais il faut reconnaître que j'ai appris à me taire, cela je peux le dire. J'ai appris à taire ma souffrance, comme courbée sur le sol, et reliée par une spirale intérieure à ma propre parole. Le ventre et le regard perdu. Je suis donc resté à l'extérieur du bâtiment, et j'ai imaginé mon mari qui était entré afin de reconnaître le corps, mais en imaginant mon mari, c'est ma fille que je voulais voir. J'étais impuissante à me représenter quel détail, car le peu d'explications que j'avais eues ne me permettait pas de reconstituer de la matière avec l'accident, autrement qu'en partant de l'image de son corps, et d'abord de son visage intact. Tout ce temps de l'extérieur est devenu un temps extrêmement long. Parce que dans ma situation, tout n'était qu'intérieur. Je ne sortais pas de l'impatience mêlée de crainte que mon mari me raconte ou me décrive ce qu'il avait vu, même si je savais qu'il me cacherait des détails, qu'il atténuerait l'horreur. qu'en quelque sorte, croyant me protéger, il masquerait la réalité, sans avoir vraiment, à cause de la simplification de son raisonnement d'homme ou de mari, l'idée que j'étais à même de délimiter l'espace tronqué où il croyait m'emmener. Cette proximité qui m'était interdite m'a fait souffrir une seconde fois, et la disculpation où se trouvait mon mari ne m'a pas soulagée. Je me suis donc tue à nouveau, lui laissant croire que c'était comme il le disait, mieux ainsi. Et je l'ai regardé, partageant secrètement le mensonge de ce qu'il décrivait, qui se voulait ne pas me blesser. J'essayais de me représenter les écarts de ses mensonges, par habitude et par amour que j'avais de cet homme pudique, dont j'avais appris à mesurer les silences. Je l'ai écouté me dire qu'il avait bien fait d'y aller, qu'il était plus fort et plus résistant que moi, même si dans cette phrase il ne fallait pas entendre de comparaison, mais la seule intention de me protéger de ce qu'il pensait qui m'aurait fait souffrir plus que lui. Je l'ai écouté dire tout cela parce que je ne voulais pas le blesser davantage, ni dans sa pudeur, ni dans son amour de moi, ni dans son rôle d'homme. Mais à l'intérieur, tout était effondré, à cause de moi et de cette image que je ne pourrais jamais défaire de mon imagination, parce que je ne l'aurais pas vue de mes yeux. Par amour, nous nous sommes contraints à ce silence définitif qui recouvrirait le corps de notre fille brûlée. Nous étions au salon, je n'ai rien entendu. Notre fille mourait, je continuais à discuter, à lire ou à tricoter. Je n'ai pas entendu hurler tout ce temps qu'elle a mis à mourir, ce qu'elle a hurlé pour nous atteindre. Je ne l'ai pas entendu de l'intérieur de mon corps qu'elle n'avait jamais quitté. Et cette violence irréparable, au lieu que j'écrie de la colère, m'a condamné à cet instant où j'aurais dû sentir que nous nous séparions, à une infinie tristesse. Alors c'est dehors que j'ai attendu. Dehors que moi, la mère qui avait porté ma fille jusqu'à ce qu'elle soit capable de vivre hors de moi, j'ai accepté de me soustraire et de passer dedans. C'est pour ça que je ne peux pas me recoudre. Je vais vous lire le début et la fin d'un petit viol. Mon salaud, tu bandes. Il me dit, mon salaud, tu bandes. Il me dit, viens, on va s'asseoir sur le canapé, et dans le canapé, il me demande si j'ai des poils. Je ne comprends pas la question. Elle est si simple qu'il n'y a rien à redire. Comment deviner qu'une question se cache sous la question des poils? Découillu me demande si j'ai des poils, il glisse la main dans mon pantalon et il me dit, mon salaud, tu bandes. Comment pouvais-je prévoir qu'on est un salaud quand on bande? D'ailleurs, il n'y avait rien de prévu. Donc je ne pouvais pas savoir. Non, ça, impensable, cette sale ouverture du corps. Impossible d'imaginer le sexe propre, impossible de se le représenter sauf dissimulation et cave personnelle. Comment pouvais-je soupçonner que tant de sueur à son visage annonçait son sperme? Sales images qui vous retombent à la gorge. Inlassablement retombe, pas que pas lisible, mais jamais digéré, petit vomi personnel qui vous entretient la santé mentale. Appelons-le découillu, dévissez le nom, dévisse la personne. Je n'ai jamais su ce que je regrettais. Toujours pensé que c'était de ma faute, que j'aurais dû résister, même si rien vu venir, rien compris. Enfin, quelqu'un qui s'intéresse à moi me prend, me disais-je, en considération pour ce que je suis, amitié pure et simple. Chaque fois que je le vois, je n'en ai pas envie, et puis ça se fait quand même, c'est comme si l'envie venait peu à peu, je ne comprends pas ce passage. Je ne sens que le trouble qui monte avec ma queue, et lui, je le saisis rétrospectivement. Il sait d'emblée que ce sera possible, il me le signifie. Il dit, Ludo et moi, on va acheter des cigarettes, les autres n'y voient que du feu. Parfois, je me dis qu'ils le savent, qu'on va se retrouver à deux, quéquette, branlette, sucette. Pas possible qu'ils ne le sachent, ne le soupçonnent. Pas possible que le monde ignore ce que je ne peux dire, que ne soit pas hurlé ce que je dois taire. Ouverture du chantier le 28 juin 2007, soit 33 ans et 8 mois après ce mercredi soir d'automne, disons 35 pour simplifier, rien à simplifier, pas sûr d'aller jusqu'au bout, à considérer qu'il y ait un bout. Je sens bien que cela comporte des risques. Ça fait des années que je sais qu'un jour je m'y enfoncerai, non pas 10, 15, mais 25 ou 30, ou peut-être depuis le début, je le sais. Sans le savoir, non, qu'on écrive sans savoir, mais j'avais déjà les intestins bien lourds. Alors cette chose-là n'a fait que plomber le ventre. Il ne me restait plus qu'à grossir pour enfouir ça, mettre des scellés partout, n'en parler jamais. Ni à mes parents, ni à Véro, ni à Henri, ni à Pierrot, ni à Tony, ni Caro, même n'en connaît qu'un bout. Après, on ne vit qu'à travers soi, c'est-à-dire que la fabrique du monde ne se plie qu'avec ce bref tragique de votre existence qui vous a fait jouir et vous enfonce dans vos délectables détestations de vous-même. On s'encombre parce que cela vous encombrant, il reste tout le monde ensuite. Il précède chaque geste tordu par la distance des mots comme si cela inaugurait sa bouche, son plaisir de dire, me dire. Ça doit faire mouiller sa bouche. Il me dit, je vais te sucer, tu verras, la bouche c'est comme un vagin, quand tu pénétreras une femme, ce sera pareil. Je te suce, le monde est détruit, je te supprime de toi-même. Je prends ta vie dans ma bouche, je te finis. Désormais, je t'interdis d'être ce que tu aurais dû être. Les mots ne sont pas les mêmes, sauf ma vie. Il me dit, je vais te sucer, la bouche c'est comme un vagin, tu verras, quand tu pénétreras une femme, ce sera pareil. À 14 ans, j'ignore tout du corps féminin, mais il n'est pas question de corps ou de femme, il n'y a de sexe que sa bouche. C'est sans représentation possible. Il suffit de dire le mot, de le faire, comme si cela se faisait sans moi, d'ailleurs, je ne suis qu'une bite. Vas-y, suce bien, que je meurs à fond. Il n'y a rien à voir parce que rien ne sera plus pareil. Il me dit, je vais te sucer, ça commence dans la voiture sur le terre-plein, c'est l'automne, il fait nuit, il dit, Ludo et moi, on va chercher des cigarettes, on a déjà le bout de nos queues allumées. En mettant du vagin dans sa bouche, il m'interdit le corps des femmes. En pensée, en parole et par action. Il tue ce que j'avais pu être jusqu'à ce soir-là. Il me tue dans ses mains, il me tue dans ses yeux, il me tue dans sa bouche. Reste à vivre mort. Dans une histoire sans fin, il faut bien décider de partir à un moment, de se défaire de ce qui vous oblige à rester là en dépit de cette croyance qu'on pourrait quitter, rompre, changer d'existence, alors qu'on essaie juste de s'arranger et d'occulter ce qui prend trop de place, de léger sa personne plombée comme un culbuto, drôle de point d'équilibre, qui ne sait de quel côté ça va basculer. Je ne peux rien épuiser de cette chose, je ne peux que la répéter ne l'use pas, c'est pour ça que je ne peux pas m'en sortir, je ne peux que vivre avec ou... sans mesurer si l'avoir écrite et la mettre à jour lui donne moins de poids. Probable que je me leurre, car à l'inquiétude de ce qui demeure s'ajoutera l'inquiétude liée à ce texte. Pas non plus de sens qui soit progressif et dans l'ordre de la vie explique et fasse comprendre, genre mort, brutalité, stop, coupe, coupe, ce qui continue n'est pas la suite, mais une autre voie, un rejet. Prendre l'envers comme l'endroit. Ni aucun chemin à retrouver puisqu'aucun effacement possible. C'est donc qu'il est temps de s'arrêter. Cet enfant à la maison à cause d'une morte qui prend la place de deux, nos parents nous font le coup du bois à couper alors qu'à Hasbrouck on est au fioul. On y va, on revient, c'est connu, la voix blanche de la morte nous ramène à notre enfance où on se trouve bien. Mais une fois que la morte a bien fait son office, nous les vivons perdus pour de bon. Et nos parents d'autre part avec leur amour qui nous abandonne, il ne reste plus rien à semer. Et nous n'avons plus pour abri que notre peur au ventre. Allons, allons, dis-je, d'un improbable cœur vaillant, car j'étais à la fois le plus jeune et le plus froussard de la fratrie. Je distingue au fond de la forêt une lueur, au-delà de la frontière, n'ayez pas peur, mettons-nous en chemin. Sur quoi nous nous mîmes en chemin? Oh, dit l'ogresse, quand nous heurtâmes le lourd marteau de la porte, que faites-vous là, malheureux, ne savez-vous point que c'est ici la demeure de l'ogre? Nous cherchons du sens à notre vie, dis-je à l'ogresse. Depuis que notre sœur est morte, nos parents nous ont perdus et nous n'avons plus d'appétit. Eh bien, asseyez-vous sur le canapé, je vais vous faire à manger, tandis que mes petites dorment, car l'ogre et l'ogresse avaient des petites filles bien fendues qui dormaient dans une chambre non loin de la cuisine. À peine fûmes-nous couchés que la voix de l'ogre revint au logis qui dit à sa femme, « Ma femme, que cachez-vous ici ? Voilà qu'à l'instant d'entrée, je sens la chair fraîche. Or, dans le temps que l'ogresse lui servait les mets qu'il préférait, elle le branla si bien et le suça si fort qu'il gicla du sperme comme s'il en restait de 6 mois. « Or ça, mon mari, dit-elle, ne vous ai-je point pompé tout votre sou? Allez vous coucher joyeusement. »« Non pas, madame, fit-il, Je veux tâter d'une jeune queue que je sens frétiller là-haut et je brûle de crever par le frondement ce petit bougre. Madame, je vous souhaite la bonne nuit. C'est ainsi que dans la chambre où dormaient les filles bien fendues, ainsi que nous-mêmes, l'ogre monta en chantonnant à mon salaud tubande. Or, au moment que j'avais entendu les paroles de l'ogre à sa femme, je fabriquais bien vite de beaux et bien durs godemichets de bois tendre que je laissais au ventre des petites filles, et calais entre les jambes de mes frères et moi de jolies petites fentes que j'avais doigtées dans du sein doux, qui se trouvaient avec le bois tendre conservé dans une cave sous la chambre, de sorte que l'ogre, dans la pénombre de son sexe qui semblait luire jusqu'au plafond, encula tour à tour ses petites filles avec tant d'ardeur et tant de profondeur, qu'elles moururent d'un coup sans gémir. Et lui, ayant déchargé en chacune tout son sou, s'abattit épuisé à l'instant de quoi nous nous enfuîmes dans la nuit noire. Mais, ayant aperçu à travers cette pénombre qu'il serrait son sexe immense dans une gaine magique qui lui permettait entre autres de franchir cette lieue d'un pas, et l'adaptant à ma petite queue, je fus aussitôt à la ville, où la fille du roi qui vint à passer demeura interdite à la vue de cet objet qu'elle alla sur le champ vanter à son père. Or, le roi, son père, n'ayant plus que cette bonne fille à marier qui se trouvait être la plus belle du royaume et se désespérant que les gentilshommes de ses provinces fissent si mal pourvus, demanda à voir toute ma personne, et il fut si frappé de tant de grandeur et de noblesse qu'il me donna aussitôt la main de sa fille et fit la fortune de mes parents comme du reste de ma famille. Ici, un bon père de famille gérant sa famille et ses biens en bon père de famille. J'avais une foi de fossé avant et puis après. Nous sommes grands par nos impuissances. J'ai quand même toujours été petit. Il y a du temps qui passe et du temps qui s'arrête. Nous sommes jonglés. Les mots ne m'aident plus. Le petit Ludovic attend ses parents à la cave. Je vais terminer en vous lisant quelques extraits d'un, d'un texte qui est aussi inédit, dont juste deux, trois petits morceaux ont été publiés en revue. Et, voilà. Et ça s'intitule « Courrier des lecteurs ». Mon mari ne veut pas changer de voiture. Mon mari est petit cadre dans une grosse société. On ne roule pas sur l'or, mais il gagne assez bien sa vie. Nous avons bientôt fini de payer notre pavillon et nous passons des vacances dans un VVF près de Béziers où nous avons nos habitudes. Je suis secrétaire dans la même entreprise que lui et par le CE, on a nos facilités. Notre voiture a 15 ans, nous avions dû en changer quand je suis tombée enceinte de ma fille. Certes, on l'a toujours bien entretenue, d'autant que c'est un bon modèle, mais elle a vieilli et je voudrais la remplacer. Mon mari prétend que ce serait une dépense inutile, que c'est toujours de l'argent perdu et qu'on verra plus tard. Mais au bureau, je suis la risée de tout le service, et on m'appelle de noms pas réjouissants qui me font parfois pleurer quand je vais aux toilettes. Dans notre quartier aussi, on se moque de moi, et même l'été dernier au VVF, j'ai eu droit à des réflexions humiliantes. Mon mari me dit qu'il ne faut pas céder aux idiots et que ça va passer, mais il ne veut pas voir ma souffrance, alors qu'on a les moyens d'en changer. Comment le convaincre? Megan R. Le Mans. Mon mari a des tics. Mon mari et moi sommes mariés depuis quelques années. C'est un homme calme d'apparence, mais nerveux au dedans, qui a toujours eu comme des tics d'agrément. Tantôt il est pris de frissons qui le secouent d'un coup, tantôt il pousse des cris brefs dont je dois avouer avec honte qu'il me donne plus l'impression de vivre avec une bête qu'avec un humain. Cependant, mon mari n'est ni singe ni fou, et il me dit qu'être lui-même, ce n'est déjà pas rien. Depuis quelques mois, j'entends une recrudescence inquiétante de ses cris. Quand il travaille dans son bureau, j'ai l'impression de vivre à l'orée d'un cirque ou d'une ménagerie. Je l'ai incité à consulter, mais il me dit que depuis son enfance, il est ainsi et que ça passera, comme tout. Je n'ose lui exprimer mon inquiétude, car on voit parfois des hommes sur des pentes qui ne s'en remettent pas. Ce n'est bien sûr pas que je craigne qu'il devienne animal, c'est à cause de son impuissance à se contrôler comme on doit contrôler ses pulsions. Au lit, je ne peux pas me plaindre, Mais si cela lui prenait en société, de quelle médecine cela relève-t-il? Que me conseillez-vous? Jeanne T. Lyon-Laforêt. Mon mari fait l'autruche. Mon mari est malade et il ne veut pas se soigner. Il fait son autruche. C'est ainsi depuis toujours, il a 50 ans et ce sont 50 années d'autruche. Dès qu'il a un problème, il se prive de toute réalité. Alors, plutôt que de se prendre en charge, il continue à vivre n'importe comment et se tue à petit feu. J'ai essayé d'en parler à notre médecin de famille, mais il invoque le secret professionnel. Comme je travaille dans le secteur médical, je sais de quoi il retourne, et le pire, c'est que je suis en relation étroite avec la spécialité dont il souffre. Je sais tout. Je prévois tout. Mais moi, je fais face. Je suis une battante. Je vis les yeux ouverts et je me prends en main. Je n'ai pas le temps d'aller voir ailleurs ou de faire les autruches. La stabilité de notre couple repose sur moi, donc je ne peux faillir. Puisqu'à terme il sera condamné, il me faut penser à l'après. J'aimerais acheter 2 petits appartements pour mon veuvage au lieu de la grande maison où nous habitons, mais j'hésite à lui en parler. Qu'en pensez-vous? Charline D. Montrouge. Ma femme achète des sextoys. J'ai découvert par hasard que mon épouse avait acheté des sextoys sur Internet. Dans un tiroir de sa commode, c'est une vraie basse-cour. Lapin rose, canard blanc, des œufs de toute taille et même un poisson avec un gros œil. J'ai trouvé aussi des phallus de toute nature et de toute matière dont certains sont si énormes que je me demande bien à quoi ils peuvent servir. Comme je suis quelqu'un d'assez réservé, je n'ose lui en parler. Et n'ai personne à qui m'en ouvrir, dans ma famille, au bureau, ni à notre médecin, parce que je sais que ça ne le regarde pas, et puis dans un village, tout se sait si vite. C'est la première raison pour laquelle je vous écris. Peut-être saurez-vous m'expliquer et me dire que c'est normal, si je dois lui en parler ou la laisser faire. Je ne suis pas jaloux de tempérament, et vous dire que je suis très absorbé dans mon travail serait une excuse facile et un aisé prétexte, mais c'est la réalité. Merci de votre écoute. X. Saint-Guilhem-le-Désert. Un livre scandaleux. Je voudrais réagir à la lettre de Patricia B. à propos du livre et des attouchements. Je suis certaine que l'auteur a exagéré. Quand on vit ça, ce n'est pas possible de le garder pour soi. Or, il n'en a jamais parlé. Ou alors, on le garde pour soi toute sa vie. D'autre part, c'est un type qui paraît compliqué et qui invente toujours plein de choses pour se rendre intéressant. Ça se voit qu'il a des problèmes dans sa vie, de boisson, et aussi, j'en suis sûr, avec les femmes et tout ça. Je trouve indécent d'écrire un tel livre et de le mettre devant le nez de tout le monde. Ça ne regarde personne. En plus, il a une femme et des enfants, et il risque de faire du mal à la famille de la personne avec qui ça s'est passé. Or, on n'est jamais innocent dans ce genre de situation. Il a dit qu'il avait eu du plaisir. Je trouve ça répugnant et scandaleux. Et mon mari pense pareil. On n'est pas contre l'homosexualité, nous, mais quand même. J'ai honte pour lui, pour sa femme et ses enfants, pour toute sa famille et tous les gens à qui il fait du mal, car ça rejaillit inévitablement sur les proches. On ne devrait pas avoir le droit de publier de telles choses. Du coup, à la maison, on a été obligé de cacher le livre et on ne pouvait le lire que le soir, quand les enfants étaient couchés. Maintenant, on l'a rangé la plupart du temps et on n'en a jamais parlé à personne. Je crois que c'est la meilleure attitude et je m'interroge sur la personnalité de Patricia B. si elle a trouvé du plaisir à cette lecture. Jeanne X. Rambouillet. Mon ami ne passe pas à l'acte. Voilà plusieurs semaines que je désire vous écrire, mais franchir le pas de la parole ne m'est pas simple. Depuis quelques mois, je vis une relation avec un homme de mon âge et il ne se passe pas grand-chose. Sans doute est-ce que je m'y prends mal et manque de le séduire. J'ai envie de lui, mais ne sais comment lui exprimer. J'ai l'impression qu'il en va de même de son côté. Nous ne sommes jamais passés à l'acte. Certains soirs où nous dînons ensemble, nous ne vivons pas sous le même toit, quand il a bu un ou deux verres, il devient plus entreprenant, et je vois bien qu'il me désire davantage. Nos baisers sont passionnés, nos caresses envoûtantes, mais nos mains ne glissent pas sous nos habits, sauf le haut pour être honnête. Or, j'estime que c'est à lui à faire le premier pas, car pour ma part, je me sens incapable. La femme, c'est moi. Nous nous quittons frustrés et embarrassés de n'avoir pas su aller au bout. Il n'y a pas besoin de le dire pour s'éprouver. Croyez-vous que je doive le faire boire davantage? Sarah 1. Le Lot. Et je termine avec 2 lettres qui ont été refusées par le magazine. Depuis toujours, je vis plusieurs vies. Je me suis marié dans mon milieu, j'ai fait des enfants à ma femme pour assurer notre position, mais je me suis toujours éclaté ailleurs. N'étant ni difficile ni regardant, je prends tout. Les hommes jeunes, les plus vieux, les femmes mûres. Mais ce que je préfère, ce sont les garçons de 15 ans. Ayant été élevé avec des principes, je ne touche pas aux enfants. Je trouve scandaleux qu'on touche aux enfants. Je suis favorable au rétablissement de la peine de mort dans les cas d'enfants. À 15 ans, les garçons sont formés et mûrs pour être affranchis. Ce ne sont plus des enfants. D'ailleurs, dès qu'on commence, ils en réclament. Avec leur petite queue bien tendre et bien droite, surtout lorsqu'ils n'ont aucune expérience, c'est un régal. Je tiens à préciser que je ne viole jamais. Je touche, me fais toucher, c'est tout. C'est une forme d'éducation. Il faut conserver ses limites sans quoi on ferait tout et n'importe quoi. Je suis farouchement opposé au viol. Je n'ai jamais touché une jeune fille. Je considère salubre qu'une jeune fille se marie vierge. Je le souhaite dans ma propre maison et avec mon épouse, nous l'avons rappelé à nos filles. C'est une question de générosité. Le corps qui procrée doit être entièrement offert à l'époux qui donne le sien à cette intention. Sinon, tout part à volo et qui sait quelle société on construirait. Qu'en pensez-vous? D.C. France. Je suis un fidèle lecteur de votre courrier depuis fort longtemps. Néanmoins, je dois vous dire que jamais un instant je n'ai cru que les lettres que vous publiez étaient écrites par des lecteurs ou des lectrices anonymes, quelle que fût leur signature. Je ne sais si votre psychologue les rédige elle-même ou si vous partagez à plusieurs journalistes le plaisir de les écrire ou si vous avez vos petits nègres, mais j'avoue que je m'amuse à retrouver d'une lettre à l'autre un style arasé et adapté aux conventions du genre, des tics de langage, des provenances variées, ainsi qu'un intérêt tournant et éclectique au sujet qui donne l'illusion que c'est toute la France qui vous écrit. Les premiers temps, je m'en suis offusqué, puis je me suis en quelque sorte piqué au jeu et établissais, au moment de tourner la précieuse page, des pronostics. S'agira-t-il d'un problème de génération, social, familial, d'amour, de sexe, de morale? S'agira-t-il d'une de ces lettres qui contreviennent aux lois du genre et surprend le temps d'y entrer? Car je ne saurais limiter ma surprise à de telles lettres, l'étant tout autant par le raffinement avec lequel vous continuez à aborder les mêmes sujets, introduisant un paramètre, un détail différent, mais closant impitoyablement par une question. J'ignore si on peut dresser un recueil de ces lettres, et comme il serait impossible d'en choisir les meilleures, il faudrait élaborer de complexes critères discriminatoires. Sans doute devrait-on les choisir de façon arbitraire, sans œil, en quelque sorte. Cela aboutirait à un livre sans importance, mais qui se bercerait d'illusions, comme souvent sont les livres, puisqu'ils existent dans le temps qu'on les lit, qui est un temps au moins aussi court que celui de la vie d'un lecteur. Comme un temps mort, d'avance. Qu'en pensez-vous? Ludovic D., La Madeleine. Merci.